Radico Libre. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre avec moi-même au micro et à la technique. Une émission que vous pouvez retrouver sur le site radioalpa.com dans la page de l'émission Radico Libre. On aurait pu vous parler cette semaine d'une semaine riche en rebondissements, c'est le moins qu'on puisse dire. Rappel de la séquence, dimanche 5 octobre, après presque un mois d'attente, le gendarme de réserve bidonneur de CV qui nous servait de premier ministre, j'ai dit Servet, ah mais j'apprends là dans mon oreillette qu'il nous sert encore de premier ministre. Waouh, il a annoncé son gouvernement dimanche dernier, il a annoncé sa démission lundi dernier, il annonce maintenant qu'il est de nouveau premier ministre. Ces gens ne savent pas, hein, je crois qu'on parle de girouette. Que du lourd quand il annonce son gouvernement, mais pas du frais, hein. Non, quelques mises en examen, que des libéraux bien sûr, et au milieu, un gars de gauche. Hein, quoi, hein ? C'est du moins comme ça qu'il est présenté par ses communicants et les médias. On a pu entendre ça un dimanche soir sur France Info.
C'est l'entourage de Roland Lescure qui est en train de communiquer et de nous envoyer des éléments de CV de Roland Lescure. Hein. Alors oui, son CV, on le connaît. On insiste bien sur le fait qu'il a une sensibilité de gauche. Et alors l'anecdote, c'est qu'on nous dit bien qu'il est issu d'une famille à la fois modeste et engagée, fils de résistant, communiste, journaliste à l'Humanité pendant plus de 40 ans et d'une mère ancienne syndicaliste CGT à la RATP. Voilà les éléments que nous envoie, enfin parmi les nombreux éléments bien sûr de CV que nous envoie l'équipe de Roland Lescure.
Il s'est un peu éloigné quand même du communisme.
Et il a grandi dans un HLM de Montreuil aussi. C'est un élément de biographique que j'ai lu il y a quelques instants.
Voilà. Et on nous rajoute que le fait qu'il a travaillé donc dans le monde de l'économie et de l'entreprise et qu'il est vu comme un faiseur de deal, un homme du dialogue, et bien c'est ce qu'on va voir dans les semaines à venir.
Eh ben en effet, on verra ou on verra pas. Et il n'empêche qu'il a beau être démissionnaire, tant qu'un nouveau gouvernement n'est pas nommé, ben il reste en poste. Alors tout est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai. Les parents ceci, voilà, la HLM de Montreuil, etc. Et qu'il s'est éloigné fortement du communisme, ça c'est sûr et certain. Mais il est de gauche le bonhomme et on le retrouve dans plein de médias, c'est rappelé dans le Dauphiné Libéré par exemple, le site Boursorama, l'étiquette aile gauche de la Macronie. Je savais même pas que ça pouvait exister. Ah ben si, on avait une représentante, la fille du pétrolier, si, Agnès Pannier-Runacher. La voix du Nord est plus claire sur le pédigré de Monsieur Lescure, je cite, libéral, soucieux d'une fiscalité compétitive des entreprises françaises. Ah oui, on est loin du projet communiste. Hein. D'ailleurs, ses préoccupations, pas du tout de gauche, il les avait indiquées en septembre dernier sur France Info. Justement.
Il y a trois sujets aujourd'hui à négocier. Il y a un sujet de trajectoire, il y a un sujet social, retraite, chômage, et un sujet fiscal.
Et voilà, les trois sujets qu'il va falloir traiter. On est loin de l'idée de gauche d'assurer le minimum à tous pour ensuite se libérer du labeur et choisir ses comportements. Oui, la liberté, c'est au-delà du nécessaire, comme disait l'autre. Dans la même interview matinale, en septembre dernier, Monsieur Lescure assume qu'il faudra faire des compromis. Ah, par contre, il y a un truc sur lequel il lâchera rien parce qu'il a une croyance profonde.
Je suis persuadé que, un, il faut voter un budget, il faut que la France ait un budget, mais que, deux, ensuite, il faudra continuer à faire en sorte qu'en France, on innove, on croisse, on crée de l'emploi, parce que c'est la condition sine qua non. Dans un monde dans lequel la concurrence est féroce et dans lequel l'innovation va à 100 à l'heure, pour que la France et l'Europe jouent leur rôle.
Donc voilà la gauche actuelle, hein, en tout cas comment elle est présentée dans les médias. C'est du libéralisme avec des buts bien précis, la croissance, l'innovation et la concurrence. Oui, la bagarre de tous contre tous, organisée surtout par ceux qui récupèrent les dividendes de cette bagarre. Et puis, lundi, la fable de la gauchisation du gouvernement tombe à l'eau puisque la nomination d'un autre ministre n'a pas plu au ravi de Vendée qui triche à Interville. Bruno Le Maire, le libéral vindicatif qui ne s'est jamais trompé, devient ministre des armées. Mais l'autre Bruno, redevenu le ministre des flics et des cultes, ne le supporte pas. Alors le gouvernement tombe. Avant d'être totalement nommé, hein, je rappelle que 18 ministres seulement avaient eu leur nom sur une liste. Il en manquait un certain nombre et notamment une partie des secrétaires d'État, les sous-ministres. Bruno Bruno Le Maire n'avait pourtant rien à faire là, puisque lui, dont la parole est d'or, hein, il avait donné une interview en septembre 2025 à l'Usine Nouvelle, un mensuel sur l'industrie et la technologie. L'interview paraît le 22 septembre, donc deux semaines avant la nomination du gouvernement. Je vous lis la dernière question et la réponse de Monsieur Le Maire. Rentrerez-vous dans le prochain gouvernement ? Cela est totalement exclu. Je répète, rentrerez-vous dans le prochain gouvernement ? Cela est totalement exclu. Et il continue, Bruno Le Maire. J'ai fait le choix en juin 2024, après notre défaite aux élections législatives, de me mettre en retrait de la vie politique. J'ai considéré que nous n'avions plus de marge de manœuvre nécessaire pour agir clairement et fermement au service des Français. Je n'ai pas changé d'avis. Et bien, deux semaines après, il a changé d'avis. Au moins, si on en croit l'adage, Bruno Le Maire n'est pas un imbécile. Non, un arriviste sans doute, mais pas un imbécile. Une fois son caca nerveux fait, le ravi de Vendée n'avait plus qu'à courir les plateaux pour s'expliquer. Alors qu'on s'en fout, hein, dans le sens où ses actions étant exclusivement dictées par sa quête de pouvoir et donc n'ont aucun rapport, toutes ces actions-là, elles n'ont aucun rapport avec la vie des gens, eh ben on s'en fout complètement. Mais on a quand même pu le voir lundi 6 octobre aux 13h de TF1. Alors que la journaliste lui demandait ce qu'il pensait d'un Premier ministre de gauche, le tricheur à Interville a répondu ceci.
Non. Quand on a entendu la gauche nous seriner les vieilles lunes de la gauche qui ont affaibli la France, pour la gauche, il fallait dépenser plus parce que c'est la dépense publique qui crée la croissance. C'est faux. Les Français s'appauvrissent. La gauche nous a dit « travaillez moins ». La retraite à 60 ans avec François Mitterrand, les 35 heures avec Lionel Jospin. Les Français s'appauvrissent. Il y a 25 ans, un Français et un Allemand, même niveau de vie. 25 ans plus tard, aujourd'hui, la différence, 7000 euros. Cherchez l'erreur. Donc, il est hors de question de cautionner aujourd'hui un gouvernement et un Premier ministre de gauche.
Hors de question. Eh ben, il est content puisque c'est un certain monsieur Lecornu qui est de nouveau Premier ministre. Alors, la gauche qui affaiblit la France, vous avez entendu, hein ? Oui, la gauche qui affaiblit la France. Pourquoi la gauche affaiblit la France ? Ben, d'après les informations qui sont données par le Ravi de Vendée, on entend que c'est en voulant réduire le temps de travail, par exemple. Ouais, rendre du temps à la population sans chercher à être la nation la plus puissante. Eh ben, voilà une horreur pour un nationaliste comme Bruno Retailleau. En plus, il est libéral. Alors, bon, bah, forcément, hein, il faut à un moment que les gens assument. Si vous êtes libéral en économie, il faut absolument essayer de gagner le plus possible. L'important n'étant pas que ça soit réparti équitablement entre les populations, mais bon, qu'il y ait un gros pot commun accaparé par une petite partie de la population. Donc ça c'est pas possible pour lui. La nation, pour M. Retailleau, n'est pas l'équivalent du peuple. Pour lui, c'est le territoire qui est important, pas les gens qui sont dessus. Enfin, pas tous les gens qui sont dessus. Oui, surtout pas ceux qui sont pas comme lui. Le peuple étant l'instrument de la puissance de la nation, et tant pis si ce peuple vit mal, eh bien lui, il ne peut pas cautionner une politique de gauche. Il ne propose rien pour réduire les inégalités et permettre l'accès de tous aux services de base. Non, que les gens mangent tous à leur faim, ils aient tous un logement convenable, on s'en fout de ça. L'important, c'est la puissance de cette nation. Est-ce qu'on est premier, est-ce qu'on est deuxième, est-ce qu'on est 28e ? Voilà, c'est ça, le classement, être bien classé. Le seul critère qu'il réussit à énoncer, c'est un critère financier. Asséné comme ça. Alors, mais au fait, ce chiffre, c'est en parité du pouvoir d'achat, c'est en données brutes, hein, les 7000 euros de différence, là, qu'auparavant, c'était exactement le même niveau de vie. Et le PIB par habitant, c'est ça qui est pris en compte ? Ou alors, c'est un autre paramètre ? On n'en sait absolument rien. Et quid de la qualité de vie ? Quand on sait que les retraités allemands vivent beaucoup moins bien que les retraités français, ça l'effleure pas, l'ami Retailleau. Ce même lundi, Bruno Retailleau appelle à voter contre la candidate du PS pour le second tour dans une législative partielle, alors que le candidat LR battu ne donne pas de consigne de vote. Le Ravi de Vendée, en appelant à faire barrage au PS, propose de voter pour quelqu'un d'autre. Et bien justement, le quelqu'un d'autre, celui qui reste, c'est un candidat UDR, le parti de Éric Ciotti, un parti créé par les Républicains, pour les Républicains qui ont déjà rejoint l'extrême droite en 2024. Je dis déjà, puisqu'en 2025, il semblerait que le reste de la troupe s'acoquine avec l'extrême droite. Pour tous ceux qui seraient surpris, on peut quand même se souvenir que Bruno Retailleau a longtemps été le second de Philippe de Villiers. lié au Mouvement pour la France, un parti d'extrême droite qui ne dira pas son nom jusqu'en 2017. Ou enfin, Philippe de Villiers appelle à voter Marine Le Pen. Dans 2022, il appellera à voter Éric Zemmour. Le Ravi de Vendée quitte le parti en 2010, alors qu'il avait déjà été approché par les sarkozystes pour entrer au gouvernement. Le transfuge, parce que le voilà qui passe à l'UMP à l'époque, gravit lentement les échelons dans un parti de droite devenu Les Républicains. Les Républicains qui partagent de plus en plus de discours avec le RN. Bah, ça lui va très bien. Hein. Pour tous ceux qui sont surpris, le retour de Retailleau dans le giron de l'extrême droite, c'est juste un retour. Un retour à des bases idéologiques. Sophie Prima, sénatrice Les Républicains, ex-porte-parole du gouvernement Bayrou, était invitée, elle, sur RTL lundi 6 octobre. Alors, quand un journaliste lui demandait si elle pourrait travailler avec le RN, elle répondit ceci. Ça dépend pour quoi faire. S'il y a un contrat de gouvernement avec des idées et des mesures qui ne sont pas orthogonales à nos convictions, c'est-à-dire un peu parallèle, hein, eh bien, travaillons ensemble. Nous n'avons pas que des désaccords avec le Rassemblement National. Tu m'étonnes. Le pas est facilement franchissable hein, quand on veut garder son strapontin et éventuellement affirmer des idées réprimées depuis toujours. Et là, les Républicains, ils sont en train de les passer, les pas. On a parlé de M. Carucci la semaine dernière. Là, on voit là d'autres, des membres des Républicains qui disent m'oubliez pas quand vous serez au pouvoir. Voilà donc les Républicains dans leur nudité crue. Il faut dire que ceux qui se part de cette dénomination, n'ont rien de démocrate. Oui, alors attendez, je m'explique. Depuis toujours, l'idée de république s'oppose à celle de démocratie. On en a déjà parlé il y a quelques temps à propos d'un bouquin d'un monsieur Manin qui justement nous réexpliquait tout ça. Quand la démocratie permet au peuple de gérer sa vie et l'organisation du territoire qu'il habite, en direct, c'est ça l'idée de démocratie. Eh bien, la République, elle éloigne le peuple en question de la gestion et de la vie du territoire par l'élection de représentants qui n'ont pas de compte à rendre sur leur action. La République est une manière de gouverner qui met une élite au pouvoir. Une élite socialement éloignée du peuple, socialement intéressée par d'autres projets de fait que le reste de la population. C'est déjà le cas dans la République romaine. C'est aussi le cas dans ses successeuses florentines et génoises. Et de fait, quand la République française est créée en France au moment de la Révolution, il y a cette idée de gouvernement représentatif. Mais cette idée, elle est toujours promue à toutes les sauces, comme l'équivalent de la démocratie. Alors on ne peut pas demander à Emmanuel Macron, qui confond la Guyane avec une île, d'avoir un petit peu d'humanité au niveau des humanités, c'est-à-dire d'avoir fait des études un petit peu historiques, et notamment histoire politique, mais quand même, quand il est sur l'île de Sein pour nous la jouer, regardez, c'était en 2024, regardez, je suis sur l'île de Sein le 18 juin 2024, c'est pour l'appel du 18 juin, sur l'île de Sein où cet appel avait été entendu par plusieurs centaines d'habitants et une partie de ces habitants avait rejoint Londres directement en partant de cette île qui est dans le Finistère. Et donc Emmanuel Macron, quand on lui demande le 18 juin 2024 mais c'est quoi cette dissolution, il répond ceci.
Je suis le premier à qui ça a fait mal le 9 juin. En mon âme et conscience, c'est une des décisions les plus lourdes que j'ai eu à prendre, madame. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Donc je ne l'ai pas fait pour moi, je ne l'ai pas fait sur un coup de sang, je ne l'ai pas fait... Ce n'est pas un coup de dé, c'est un geste de confiance républicain.
De confiance républicain. D'ailleurs, il aime ça, la République. Hein. Il aime les grands noms, les grands hommes de la République, qui parfois sont des femmes, mais il n'y a pas si longtemps. Et du coup, il a panthéonisé, là, comme on canonise. Hein, voilà. C'est moi qui ai panthéonisé. Alors là, c'est Badinter, qui est mort il n'y a pas très très longtemps, et qui avait aboli la peine de mort, enfin, qui avait permis l'abolition de la peine de mort par son action en tant que ministre de la Justice en 1981. La République, de fait, c'est une manière de gouverner. Ça peut être une manière de gouverner une démocratie, mais c'est une démocratie forcément représentative, donc une démocratie qui éloigne la population de ceux qui sont chargés de gérer le territoire. Et ceux qui sont chargés de gérer le territoire, comme je viens de le dire, étant choisis parmi une élite, ceux qui ont les moyens de se faire élire, eh bien à ce moment-là, ils n'ont pas forcément les mêmes buts que la population. Mais de fait, on sait aussi depuis très longtemps que il n'y a pas le choix étant donné la taille des États. On le sait au moins depuis les travaux de Madison, l'un des pères de la Constitution des États-Unis. On a la même chose chez l'abbé Sieyès durant la Révolution française. Les révolutionnaires vantant le concept de gouvernement représentatif, notamment pour assumer le pouvoir législatif, ce pouvoir permettant de faire les lois. À la fin du XVIIIe siècle, les États-Unis comptent déjà 3 millions d'habitants et une superficie assez importante, et la France plus de 25. Alors que l'idée d'une démocratie, donc du pouvoir assumé directement par le peuple, n'est concevable que dans des communautés humaines de petite taille, de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Mais de fait, ça n'empêche pas de se fédérer, de se regrouper, voire même de s'associer, et pas de se mettre en concurrence, de s'associer pour gérer des infrastructures à des échelles plus grandes que l'échelle démocratique. Quand les décisions peuvent être prises au plus près de la population, à ce moment-là, on peut mettre en œuvre une démocratie. Sinon, eh ben on met en œuvre une démocratie représentative qui passe par cette espèce de comment on va appeler ça ? Je voulais dire fable, mais c'est pas une fable démocratique, puisque la République n'est pas une démocratie. Non, ça passe donc par cette idée républicaine qui veut qu'il y a des élections pour permettre à la population de s'exprimer. Mais une fois que les élus sont élus, ils continuent à faire ce qu'ils veulent. Quand on parle de décision, quand les décisions peuvent être prises au plus près de la population dans un État démocratique. Si on parle de décision, c'est notamment la façon d'allouer collectivement les ressources du territoire et la façon d'aménager ce territoire, d'organiser le travail nécessaire à la pérennité de la vie sur ce territoire. De fait, ces décisions n'ont rien à voir avec la volonté de grandeur, la volonté impériale qui anime nos soi-disant représentants. On n'est pas du tout dans l'idée de la puissance de la nation et d'une espèce de concurrence entre nations. Bah non, ça c'est pas du tout démocratique non plus. Ces derniers rêvent d'avoir plus, nos soi-disant représentants, de diriger plus. Ah bah plus grand par exemple. On le voit très bien par la réalité des carrières politiques. Les épisodes à la Macron marquent une rupture. Hein. Il a jamais été élu, Monsieur Macron. Le voilà directement président de la République. Alors c'est idem pour des Millet, des Trump, etc. Ceux-là ont profité de la désaffection des populations pour ceux qu'on appelle le personnel politique. Les vagues de dégagisme ont montré clairement l'envie des populations de ne plus faire confiance aux carriéristes de la politique. Alors, ils font confiance à d'autres carriéristes. Eh, les gens, c'est pas très sérieux quand même. Cependant, le parcours classique des politiques passe toujours pour une immense majorité, par des élections municipales, puis départementales ou régionales, puis par une vocation nationale, notamment au sein de l'Assemblée du même nom, et enfin l'arrivée tout en haut de l'affiche en 10 fois plus gros que n'importe qui. Cette carrière est possible dans un cadre républicain de gouvernement représentatif, dans ce cadre où les représentants s'accumulent par strates à chaque niveau administratif défini pour organiser la vie de dizaines de milliers, centaines de milliers et puis millions, dizaines de millions, voire centaines de millions d'habitants d'un territoire parfois immense. L'éloignement physique des élus s'accompagne le plus souvent d'un éloignement social, tant il faut de moyens pour faire savoir qu'on existe et ce que l'on prétend défendre. Les décisions prises hors sol pour 10, 50, 100 millions de personnes, sans tenir compte des besoins effectifs des populations, ne servent qu'à laisser sa petite trace, sa patte, et privilégier la grandeur de la nation. Tous les guignols qui s'agitent sur la scène politique nous rebattent les oreilles avec la grandeur de la France qu'il faudrait restaurer. Alors là, c'est encore pire, puisqu'il y a plein de nations qui sont invitées sur les plateaux, notamment d'un certain nombre de médias qui sont eux-mêmes financés par des nations. Alors ben là, à quoi on a affaire ? Tout simplement, la grandeur de la France qu'il faudrait restaurer, la puissance de la France, la place de la France dans le concert des nations, et blabla, et blabla. Et tous d'avoir une solution miracle, hein, souvent la même, en l'occurrence, continuer à exploiter la population pour obtenir plus de croissance du produit intérieur brut, tout en laissant tranquilles les plus riches, dont ils sont souvent, afin que ceux-ci consentent à continuer à organiser l'exploitation des Pékins moyens suscités. Eh ben, c'est trop super, mais pendant ce temps-là, le peuple, lui, la population, les gens et leurs aspirations, on s'en bat. Le discours sur le déclassement du pays, la fin de sa puissance, inquiète le populo. Parce que c'est rabâché, rabâché, rabâché. Lui qui doit continuer à abandonner sa liberté d'action pour trouver retrouver cette espèce de cocon symbolique des imbéciles heureux qui sont nés quelque part. On nous a dit que c'était important, alors que non, en fait, hein, c'est souvent le hasard. Pour retrouver le bonheur d'afficher sa francitude ici, ou sa belgitude au-delà des Ardennes, ou sa cinitude dans l'Empire du Milieu, son américanitude aux États-Unis. Bon, bon, je vais pas faire chaque contrée, hein, Munich frontière, créée par les humains pour faire croire que nous avons plus de différences que de points communs. La taille du territoire souverain et donc la quantité d'habitants sont des critères fondamentaux dans le choix du type de gouvernement. C'est pour ça que « small is beautiful », comme disait l'autre, et que cette idée, par exemple, de communalisme libertaire, eh ben, ce serait sûrement intéressant puisqu'on allie la démocratie avec le simple fait de gérer son territoire. Simplement, si on essaye de faire ça à l'échelle de plusieurs millions d'habitants, ça n'est pas possible. Mais heureusement, là, ça y est, on a de nouveau un Premier ministre. Tiens, il s'appelle comme l'ancien. Serait-ce le même ? J'ai bien l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Sauf que, heureusement, il y a des gens qui se battent. Par exemple, à Nancy, il y a cette semaine, un séminaire antifa. Pourquoi ? Eh bien, parce que le fascisme, c'est un truc qui est en train de nous tomber dessus, même si M. Carucci ne le voit pas. Dans toute la France actuellement, il y a une tournée qui s'intitule « Forêt en danger ». Ça a commencé le 9 octobre, ça se termine le 15. Pourquoi faire ? Ben pour alerter justement sur la gestion des forêts et dire que les plantations, c'est pas tout à fait une forêt. On a également à Bure une occupation illégale depuis aujourd'hui de la gare de Luméville parce que tous les procès possibles et imaginables ont été perdus contre l'Andra qui veut faire à Bure, dans le nord-est de la France, une grande poubelle géante pour nos déchets nucléaires. Et justement, des antinucléaires sont présents dans le lieu. En disant quoi ? Ben, en disant qu'ils ne sont pas pour le nucléaire, mais pas seulement. En disant aussi qu'ils sont contre le nucléaire et son monde. Parce qu'à partir du moment où on produit le plus d'énergie possible pour faire fonctionner des trucs qui ne servent à rien et qui nous imbrutissent l'esprit, par exemple, tiens, parlons de portables, parlons de télé, parlons de tous ces écrans qui tapissent nos maisons. Eh bien, tout ça, on pourrait très bien en dépenser moins de l'énergie, donc en produire moins, donc avoir besoin de beaucoup moins de production d'énergie, notamment nucléaire, si on ne la gaspillait pas à l'utiliser à des trucs qui sont, ben, par exemple, le chat GPT, qui demande 10 fois plus, c'est ce que j'ai trouvé sur les internets, 10 fois plus d'énergie qu'une requête simple auprès de Google ou d'un autre moteur de recherche. Et d'ailleurs, on en fait trop des recherches. Enfin bon, déjà, l'énergie qui est utilisée pour le numérique est très importante et là, ça se multiplie avec tous les objets connectés. Il y a des gens qui ont des pompes connectées. Les gens, faut peut-être arrêter un petit peu. Il y a des gens qui courent et ils sont là avec leur montre connectée. Ah bah tiens, j'ai fait tant de mètres, j'ai fait tant de pas, j'ai fait... Bah écoute, quand t'es fatigué, tu t'arrêtes, c'est peut-être l'idée, non ? Plutôt que de gérer tes performances, on dirait des footballeurs américains avec l'ensemble des stats qui sont indiqués. Tout ça est complètement délirant, et bah, y en a qui luttent contre. Une assemblée régionale également Antifa le samedi 11 octobre, ça se passe à Saint-Brieuc, parce que ça se passe pas bien à Saint-Brieuc et en Bretagne. Donc à un moment, il faut le dire aux fachos, ben non, vous n'êtes pas les bienvenus et toutes vos actions là de ratonnade, eh ben va falloir que ça s'arrête. Il y a également une action qui est un rendez-vous qui est proposé à Rennes le 15 octobre au BAM, c'est un lieu connu dans le coin, contre la nuit du bien commun qui va avoir lieu à Rennes. Eh ben à propos de nuit du bien commun, sachez que des gens se sont révoltés contre l'idée, à tel point que à Aix-en-Provence, ça n'a pas pu avoir lieu. Pourquoi ça n'a pas pu avoir lieu ? Eh bien parce que les intermittents qui devaient assumer, les techniciens intermittents qui devaient assumer donc cette journée, déchargement, montage technique de l'événement, etc., eh bien se sont mis en grève. Tout simplement, et donc on avait Sud Culture, on avait le STA, ST2A, voilà, pas STAA, mais ST2A, le syndicat des travailleurs, travailleuses, artistes, auteurs, autrices, CNTSO. La CNTSO, donc CNT Solidarité Ouvrière, la CGT Spectacle et le syndicat des travailleurs, travailleuses unis de la culture et du spectacle, le STUX. Tout ce beau monde, tout ce beau monde bah, tout simplement dit non, non, nous on bosse pas pour eux. On bosse pas pour eux, ils ont été rejoints en fin d'après-midi par une manifestation qui a réuni environ 150 personnes. Et donc la nuit du bien commun, si cher à monsieur Sterrin, qui veut absolument que lui soit... Je vais y arriver. Que lui soit canonisé et qu'il y ait une hiérarchie dans ce monde. Hein. Il y a des gens bien et puis des gens moins bien. Il veut organiser la vie en France, mais il n'est pas capable de payer ses impôts en France. Voilà, c'est un monsieur Sterrin en question. Le Sterrin et Périclès, vous tapez ça dans vos moteurs de recherche préférés et vous allez tomber sur des articles de l'Humanité en particulier qui a fait un gros boulot sur le sujet. Donc voilà, il est possible de lutter contre... Il y a des appels également pour des manifs pour le 10, c'était hier pour les auditeurs du direct, le 16 novembre également. N'oublions pas que c'est un anniversaire, l'anniversaire du début de la lutte des Gilets jaunes. De fait, ça se bagarre un petit peu partout. Et cette bagarre qui a lieu un petit peu partout, eh ben on a de la chance, elle a lieu par chez nous. Alors peut-être qu'il faudrait à un moment se dire, tiens, et moi, si je participais un petit peu pour que l'avenir soit un petit peu moins brun et un petit peu de toutes les couleurs et pourquoi pas beaucoup plus démocrate, moins républicain, mais beaucoup, beaucoup plus démocrate. À ce propos, il se passe des trucs, il y a des associations qui en ont marre. Ouais, les associations en ont marre et du coup, c'est une journée de lutte de ces associations. Ah, c'est mon allergie au faf qui me reprend. Ah, c'est compliqué, hein. Faut pas en parler trop, faut pas regarder trop d'informations sur le sujet. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire qu'il y avait pour le 11 octobre, donc pour les auditeurs du direct, une journée d'action des associations qui disent « ça ne tient plus ». Le mouvement associatif, le collectif des associations citoyennes se sont mis en cheville avec d'autres pour justement dire que ça ne tient plus et se mobilisent aujourd'hui dans toute la France pour sauver les associations qui, je rappelle, ont pour but de faire du lien social, que ça soit pour faire du foot ou pour militer contre des choses. Il y a un rassemblement samedi 11 octobre à 13h30, place des Jacobins au Mans, pour justement dire en quoi ça ne tient plus et voir comment faire en sorte que ça tienne un peu plus. À 14h samedi 11 octobre, il y a également une manifestation de solidarité avec les Palestiniens palestiniennes, c'est place de la République. Il y a un cessez-le-feu, mais un cessez-le-feu à quel prix? Et on sait très bien que les Israéliens, comme les fondus du Hamas, enfin le gouvernement d'extrême droite israélien et les fondus du Hamas, sont tout à fait d'accord pour continuer le combat. Je sais pas ce que ça leur donne, sûrement cette idée de martyr. Et ben du coup, ce serait bien de continuer à mettre la pression sur le gouvernement d'extrême droite israélien, mais aussi de dénoncer ce que font les groupes religieux dans la bande de Gaza et dans le reste des territoires palestiniens. C'est donc rendez-vous le samedi 11 octobre 2025 à 14h, place de la République. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi? On peut vous dire qu'il y a une manifestation contre la conférence des discussions du Maine et de Frontières. Alors, Frontières, un magazine où tout le monde est victime des fascistes. C'est un média d'extrême droite. Donc l'association Les Discussions du Maine invite Jordan Florentin, le rédacteur en chef du média Frontières, à une conférence Média, l'idéologie face au réel, le jeudi 11. Je veux absolument confondre le jeudi et le samedi. Je reprends. Le jeudi 16 octobre à 20h au Mans. Les discussions du Maine, c'est un truc qui a été inventé par Louis de Caqueret-Valmenier, un élu Rassemblement National à la municipalité du Mans il y a quelques années, avant 2020. Et donc, il avait pondu ce truc régulièrement. Les conférences qu'il essayait de faire n'avaient pas lieu où il y avait des manifestations devant. Et donc là, c'est encore une tentative. Il y a donc rassemblement Place Saint-Pierre à 19h devant la mairie. contre cette conférence des discussions du Maine et de frontières. C'est le jeudi 16 octobre à 19h à Le Mans. Il se passe aussi d'autres choses. Eh bien, n'hésitez pas à vous renseigner, notamment en utilisant sarthe.demosphère.net. Et promis, la semaine prochaine, on vous parle des municipales. On n'arrête pas d'en parler. Qu'on va en parler ? Eh bien, on va en parler. Allez, en attendant, on se dit tout simplement, allez, au revoir.